Bienvenue sur Bip Bip. Je suis Alexandre, doctorant en psychologie sociale et entrepreneur. J'ai lancé ma thèse alors que j'étais au chômage et aujourd'hui je la finance grâce à des missions de recherche, de formation et de conseil. Ce podcast de Build It Public est là pour te montrer l'envers du décor de mon autofinancement de thèse, mais surtout t'inspirer, te motiver et te partager ce qui a marché, ou pas, dans mon parcours pour que tu puisses avancer toi aussi dans l'entrepreneuriat, le doctorat ou comme moi, les deux en même temps. Enfin, pour cette saison 5, je vais discuter d'un sujet qui n'est pas du développement personnel. J'ai envie d'arrêter de simplement faire ça parce que j'ai envie de te transmettre des choses qui sont utiles pour faire un doctorat ou de l'entrepreneuriat ou les deux. Et donc, certes, il y a énormément de travail à faire du point de vue du mindset et du développement personnel, mais je l'ai déjà dit, ce podcast est aussi là pour t'aider et te donner des clés. Et donc aujourd'hui, je vais parler du sujet précis qui est de vendre, réaliser et organiser un focus group comme une prestation. Alors, pour ceux qui ne sont pas des sciences humaines et sociales, un focus group, c'est un groupe à plusieurs personnes. C'est un entretien à plusieurs personnes parce qu'un groupe a forcément plusieurs personnes. Donc, faire un focus group, c'est faire un entretien avec 3, 4, 5, 10, 12 personnes et essayer de les analyser. Moi, j'ai envie de te partager comment j'ai réussi à vendre, organiser, analyser un focus group parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Je trouve que c'est une prestation qui se vend, qui se partage bien et je trouve que c'est un bon bloc intéressant à partager dans un podcast. Si jamais toi aussi t'es intéressé par faire ce type de prestation. Alors, comment ça s'est passé déjà pour avoir l'opportunité d'analyser et de faire un focus group? Alors, j'ai eu la chance que ce soit quelqu'un qui soit venu vers moi. J'ai eu l'extrême chance que ce soit quelqu'un qui m'a reconnu de LinkedIn et qui m'a dit « Est-ce que c'est toi, Alexandre, de LinkedIn ?» dans un salon. Donc, c'était un jour où je faisais une conférence au salon infirmier Porte de Versailles. Donc, j'avoue que pour l'ego, c'est pas mal de devoir faire une conférence au salon infirmier et d'être reconnu être associé à un projet parce que tu es reconnu de LinkedIn. J'avoue que c'est sympa. Et donc, on m'a dit, voilà, est-ce que tu sais faire des entretiens, des focus groups, etc. J'avais dit oui, et c'est le cas, j'en ai déjà fait. Je suis formé pour faire ce genre de choses. Mais donc, j'ai envie de t'expliquer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est peut-être un podcast précisément sur les psychologues ou les doctorants entrepreneurs en psychologie. Donc, désolé si c'est trop précis, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie des prestations que je fais. Donc, si tu es intéressé par ce genre de choses, au moins, tu peux avoir quelques infos sur comment on fait. Et puis, même si ce n'est pas le type de formation que tu veux faire parce que tu as envie d'être entrepreneur, peut-être qu'il y a des choses à tirer sur la manière dont j'ai géré la relation client, etc. Enfin, voilà, j'ai un peu envie de raconter une prestation un peu près de A à Z, savoir quand ça s'est passé, évidemment en garantissant l'anonymat du client, parce que comme d'hab, j'ai pas demandé si je pouvais parler du client, mais bon, de toute façon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je le fais jamais et que finalement, ça peu importe finalement, enfin, je l'ai fait rarement. Mais il n'y a pas besoin de savoir pour qui je travaille pour que je puisse te transmettre des trucs qui sont intéressants. Donc, pour le début de cette histoire et de cette prestation, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire de pub dessus. On m'a proposé de le faire. Alors, à partir du moment où on propose de le faire, ça ne s'est pas fait jusqu'à ce que je ne relance pas, jusqu'à ce que je relance. Donc, justement, même si on propose des choses, même si des gens ont l'air intéressés, il faut relancer, il faut dire « Ah, tu m'avais parlé de tel projet, de tel sujet, il y a X temps, est-ce que ça tient toujours la route ?» On fait une relance, deux relances, trois relances, on fait un rendez-vous, enfin voilà. Il faut le premier sujet transversal que je peux transmettre, c'est que même si on propose quelque chose, il faut relancer. Donc je relance plusieurs fois, on se voit, et donc là, je prends connaissance du sujet, d'un projet, et je pense quelque chose qui peut être intéressant, et un conseil que je peux te donner, c'est n'aie pas peur de faire un focus group ou un entretien sur un sujet que tu ne connais pas. Parce que, justement, Moi, j'aime garantir ma posture de naïf quand je fais un entretien ou quand je fais un focus group, parce que ça permet de tout simplement devoir être naïf, parce qu'on doit être naïf, parce qu'on doit faire émerger des idées qu'on ne connaît pas, on doit ne pas mettre des idées dans la tête des personnes. Et donc, moi, c'était sur un sujet très précis en santé, pas vraiment en psychologie, mais donc, tant mieux en fait. Il faut être. Donc, c'est aussi une solution pour le syndrome de l'imposteur qui était le sujet d'un épisode passé. Mais il faut savoir pourquoi on est là et sur quoi on est bon. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir sur le sujet. J'ai besoin de savoir ce que j'apporte en termes de méthodologie, en termes de analyse et en termes de technique d'entretien pour bien faire émerger les idées, mais peu m'importe du sujet que je le connaisse ou que je le connaisse pas. Et je sais que le moi d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an se serait senti mal vis-à-vis du client de dire ah mais moi je m'y connais pas, enfin je l'aurais pas dit hein, mais ah je m'y connais pas sur ce sujet. Mais en fait maintenant je le vends comme une force. C'est moi j'en sais rien, mais tant mieux. Ils vont m'apprendre, ils vont voir des vrais yeux de naïf et ils vont avoir envie de m'expliquer ce que c'est. Donc déjà posture naïve, être honnête sur le fait qu'on ne connaît pas. Par contre ce qu'on connaît c'est la méthode et les techniques qu'on va utiliser. Donc, je prends connaissance du projet et j'ai tout de suite une démarche de comprendre quelles sont les attentes et quel type d'informations les personnes veulent avoir. Ça, c'est super important parce que je trouve que si on ne prend pas beaucoup de temps à savoir ce que les personnes veulent et ce qu'elles aimeraient avoir, même si ce n'est pas des hypothèses de recherche, mais si c'est des attentes de clients, ce qui est très différent. Quel type de réponse, c'est super intéressant pour ensuite déterminer quelle question on va poser. Moi, j'aime bien poser la question, OK, dans votre étude, ce serait quoi la réponse parfaite pour vous? Ça répondrait à vos hypothèses si la personne disait quoi? Quitte à pousser la personne à faker ou faire un faux entretien et dire, ben voilà, qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans la bouche des participants pour que vous soyez satisfait? Et en ayant déjà la réponse, eh ben en fait, on peut réfléchir à la question. Et c'est comme ça, en fait, en étant très pragmatique et très précis sur ce que les personnes attendent en termes de réponse et même de type de réponse. Est-ce que vous voulez des mots? Est-ce que vous voulez des phrases? Est-ce que vous voulez un débat? Est-ce que vous voulez que les gens se mettent d'accord ou pas? Est-ce que vous voulez juste que les gens échangent leur désaccord? Et tout ça, ça mène à de la méthodo qui est différente. Par exemple, si on comprend que les personnes, elles veulent un débat, elles veulent un consensus, on peut utiliser des armes de psychologie sociale pour créer le consensus déjà, et on peut utiliser des stratagèmes et des organisations différentes de discussion pour trouver un consensus. Par exemple, tout simplement, donner des règles, dire qu'il faut trouver un consensus. Il y a aussi des stratégies pour aller vers de la convergence en donnant du temps. En sous-groupe ou en solo aux personnes pour pouvoir réfléchir sur les arguments, revenir en groupe, puis repartir chacun de son côté, puis revenir. Et c'est comme ça qu'on peut construire et se convaincre plutôt que de lancer une grande discussion qui ne s'arrête pas et où généralement tout le monde campe ses positions à partir d'un moment où c'est un petit peu émotionnel. Donc voilà, premiers éléments qui ont fait. Alors pourquoi je raconte aussi cette. C'est ce projet-là, parce que je trouve qu'un focus group, c'est du coup quelque chose qui se vend bien, c'est une prestation à part entière, et ça a été une réussite, et j'aimerais expliquer pourquoi ça a été une réussite et en quoi, si tu veux le faire, tu pourrais gagner du temps ou réussir ce type de prestation. Du coup, je suis clairement en train de me créer de la concurrence, mais c'est pas grave. Donc, analyser très précisément quelle question, quel sujet, et quel type de réponse souhaite le client ou l'équipe de recherche. Pour le coup, c'est une équipe de recherche. Et en fait, en faisant ça, je sens que je suis passé à côté de plein d'erreurs que j'aurais pu faire il y a quelques mois ou quelques années, parce que j'adapte la méthodologie selon les attentes. Ça paraît simple quand on le dit. Mais en fait, bon, je vais utiliser un exemple pour que ce soit concret. Imaginons que le focus group, ce soit sur le jardinage. Bon, je dis ça, je ne suis pas très créatif, j'étais en train de regarder un jardin. Eh bien, normalement, un focus group sur le jardinage, ça pourrait être, entre des personnes qui font du jardinage professionnel, on peut vouloir étudier à quel point tel type de plante est importante ou quelle technique faut utiliser pour quelle plante. Ou par exemple la gestion, l'organisation d'un jardin, par quoi on commence, par quoi on finit. Voilà, on pourrait se dire, bon, bah, on a trois thématiques, le type de tonte, le type de plante, la manière, l'organisation, et voilà, on va poser des questions. Bah, comment vous organisez? Est-ce que c'est important de commencer par, j'en sais rien, par la pelouse, par l'arrosage, par, etc. Mais en fait, il faut voir tous ces détails, l'ordre des questions et le type de réponse avec le client. Par exemple, moi, là, les personnes étaient intéressées à savoir quelles étaient les premières idées, les premiers mots qui étaient associés à la thématique. C'est-à-dire que là, pour le jardinage, l'équivalent de la question que j'ai faite, c'est qu'est-ce que ça veut dire le jardinage pour vous? Alors, pourquoi cette question, elle est intéressante? Elle est intéressante de 1 parce que ça intéressait les clients de juste voir quels sont les mots associés, à quoi ça renvoie, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnes quand on dit le thème, donc là le jardinage, mais c'est évidemment le faux thème. Et en plus, c'est intéressant parce que ça permet, cette première question large, de lancer les participants dans le sujet et de juste commencer à construire, à reconstruire leurs croyances, leurs goûts, leurs attitudes sur le sujet. Et ça, c'est une technique que j'utilise partout dans mes entretiens individuels et en groupe, donc des focus groupes, c'est de commencer de manière très large. C'est qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Qu'est-ce que vous pensez du jardinage? C'est quoi le jardinage pour vous? Et en fait, on rentre petit à petit dans des choses où on lève des sujets, on lève des détails, et en notant, on peut déjà commencer à avoir du matériel, donc des réponses qui nous permettent de rebondir sur d'autres sujets qu'on avait prévus de base, mais que ça paraisse plus fluide. C'est-à-dire que si je dis qu'est-ce que le jardinage pour vous, et qu'il y a y a un jardineur professionnel, un paysagiste, qui me dit bah c'est les plantes. Et bah, je peux tout de suite dire bah les plantes, c'est quel type de plantes? Il me dit des types de plantes. Est-ce que c'est important de connaître ces différents types de plantes? Et voilà, en fait, petit à petit, je vais pouvoir arriver sur un sujet où je voulais potentiellement arriver avec une discussion large qui est bah, est-ce que le type de plante va jouer sur ce que vous devez faire? Et bah, au lieu que ce soit moi qui pose la question et que peut-être ce soit trop abrupt, de commencer large, et bah, je vais pouvoir saisir au vol des informations qui vont me permettre de rebondir sur un sujet que j'avais déjà prévu. Pour le coup, il me semble que c'est très bien vu. En plus, ça fait beaucoup moins interrogatoire et les participants voient moins passer le temps quand on est beaucoup plus fluide comme ça et qu'on commence large et qu'on rebondit sur des choses. En fait, les participants ont l'impression que c'est une discussion, alors que nous, on sait très bien pourquoi on a rebondi sur l'information 4 et pas l'information 12, parce que tout simplement, on l'avait préparé. Donc, pour revenir sur l'organisation, il faut être très précis. Moi, j'ai fait valider plusieurs versions du guide d'entretien. Donc, vous en doutez, enfin, tu t'en doutes, il faut un guide d'entretien avec des grandes thématiques. Par exemple, le jardinage, petit 1, arroser, petit 2, couper, petit 3, le type de plante. Et dans chaque thématique, il faut prévoir des questions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une même question qui est la première pour tous les groupes. Et ensuite, des questions subsidiaires ou comment je le sens, avec toujours comme règle de rentrer dans la thématique du mieux que possible avec le matériel que nous donne le groupe, c'est-à-dire en reprenant un mot, une expression ou en faisant dérouler le groupe. C'est-à-dire que si je sais que dans mon grand focus groupe sur le jardinage, j'ai envie de parler du type de plante, eh ben, je privilégie une personne qui va d'un coup parler du type de plante et je vais foncer dans le sujet, plutôt que de couper tout le monde et de dire ma question une à la partie type de plante. J'espère que ça veut dire quelque chose pour toi. Sinon, ça va être long, mais je vais essayer de pas m'étendre pour celles et ceux qui sont pas en psycho et qui s'en foutent un petit peu. Alors, une fois que le guide est validé, le mieux, c'est de le prétester, c'est-à-dire de tester des questions et de voir dans quelle mesure elles fonctionnent ou pas. Moi, pour le coup, ça n'a pas été possible pour ce projet parce que bah, ça a été difficile de trouver des participants, donc d'en perdre pour tester, c'est risqué. Quand je dis d'en perdre, c'est parce que normalement, les personnes du prétest et les réponses des personnes qui participent au prétest ne font pas partie de l'étude, parce que généralement, s'il y a un prétest, ensuite, il y a des modifications. Parce que bah, on se rend toujours compte qu'une question passe mieux qu'une autre, etc. Ce qui peut être fait, c'est de faire un prétest avec une personne de l'équipe C'est-à-dire de demander à l'équipe de faire comme si c'était, donc moi, un paysagiste. Donc imaginons que quelqu'un veuille faire une étude sur les paysagistes, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui soient paysagistes. Et ben, je vais demander à une personne de l'équipe, peut-être celle qui est le plus impliquée, qui fait partie du métier ou qui en connaît plus sur le sujet, de dire, bon, on va faire un truc, on va faire un faux entretien et on va juste voir comment tu réponds en te mettant dans la peau de ceux qui vont répondre. Une fois que tu as fait ton guide, que tu l'as potentiellement prétesté, que tu as fait des corrections dessus, eh bien, est venu le moment de la logistique. Alors, selon les clients, selon comment ça se passe, c'est plus ou moins eux ou plus ou moins toi qui gères. Pour un focus group, c'est mieux que ce soit eux qui gèrent parce qu'il faut trouver un créneau pour tout le monde. Là, pour le coup, c'était des personnes qui étaient rémunérées pour leur présence et c'était une organisation bien ficelée, donc c'était très très simple. C'est plutôt moi, on m'a dit tu viens tel jour à telle heure. Enfin, on m'a demandé mes dispos, j'ai dit quelques jours différents. On m'a dit ok, bah parmi ce que tu as donné, tu viens à tel jour à telle heure et eh bien tu fais ton focus group. Alors, une erreur de ma part que j'avais prévue, mais qu'avec le temps, j'ai pas assez relancé ça n'a pas pu être mis en place, c'est que je n'ai pas filmé. Ce que je te conseille, c'est de filmer tes focus group parce que, on va en venir après, une fois que tu dois retranscrire, c'est un enfer de savoir qui parle. Alors, le top du top, si tu as une belle force d'investissement, moi je l'envisage peut-être d'ici quelques années, c'est de faire quasiment une prise de son télé, d'avoir un micro-cravate par personne, et tu prends chaque micro, tu prends des micros où tu sais qu'ils isolent bien les bruits extérieurs, et boum, tu mets ça dans une IA, et je suis sûr que tu peux gagner du temps. Parce que donc, bon, j'ai avancé dans les étapes, tu fais le guide et ensuite bah, tu fais la passation. Donc je t'ai dit un peu comment je m'y prenais. Je commence par des questions larges. Ensuite, je vais rubrique par rubrique avec mes questions un peu obligatoires. Donc soit j'y vais parce qu'une personne y va dans le sujet, soit j'y vais parce que c'est le moment de finir une thématique précédente. Et donc je pose une nouvelle question qui rentre dans la thématique. Et ensuite, je privilégie ce que disent les personnes. Et puis, dès que je sens qu'on a tourné en rond autour d'un sujet ou que je sens que niveau temps, il va falloir avancer sur une thématique, je pose une nouvelle question et j'avance comme ça. C'est très, très épuisant et très, très compliqué cognitivement de faire un focus group parce que il faut penser au temps. Donc, ça, c'est comme pour un entretien normal. Il faut penser à ce que dit la personne, à quel point elle répond à tes objectifs. Ce que tu vas relancer plus tard, où t'en es dans ta grille. Sauf que là, tu rajoutes en plus des entretiens normaux, une dynamique de groupe, et tu dis, ils ne doivent pas parler ensemble, donc tu dois regarder tout le monde et se dire, s'il y a des gens qui sont en train de chuchoter, il faut leur demander d'arrêter parce que ça peut nuire à l'enregistrement, ou alors ça peut tout simplement diffuser des informations qui sont potentiellement importantes que tu n'auras pas dans ton enregistrement. Et en plus, il faut distribuer la parole. Donc, tu as cinq ou six cerveaux. C'est qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Quelle est la question dans une seconde? Où j'en suis dans mon entretien? C'est-à-dire quelle est la prochaine rubrique? Où j'en suis dans mon timing? Est-ce qu'il y en a qui chuchotent? Et lui, est-ce qu'il parle trop longtemps, pas assez longtemps? Qui n'a pas parlé? À qui je vais pouvoir redonner la parole? Donc, c'est très épuisant cognitivement. Moi, j'aime bien parce que c'est stimulant, évidemment. Mais il faut quand même te faciliter le travail sur le moment. Ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, c'est un plan de table au début avec les noms et les prénoms dans l'ordre pour pouvoir me situer déjà les prénoms et pas juste pointer du doigt. Parce que il me semble que donc c'était pour deux groupes. Il y a un groupe où ils étaient deux, donc mon problème logistique, deux, on ne peut pas dire que c'est un vrai focus group, mais il y a quand même une dynamique de discussion à plusieurs. Mais ensuite, il me semble qu'ils étaient 12. Et là, pour gérer 12 personnes, même si elles étaient très correctes, mais quand je dis gérer, c'est donner la parole, recentrer, éviter qu'il y ait des gens qui chuchotent. Ça demande beaucoup d'énergie et donc il faut se faciliter au plus les choses en donnant des règles déjà au début, en disant bah écoutez-vous, moi j'ai dit on n'est pas là pour se convaincre, on est là pour échanger. Donc c'est pas grave s'il y a un désaccord. S'il y a un désaccord, on n'est pas obligé d'aller vers un accord. il faut s'écouter, j'ai besoin d'enregistrer tout le monde, donc essayer de ne pas parler les uns sur les autres, et voilà, on avance. Donc donner des règles, ça marche toujours de toute façon sur ce type de sujet de gestion de groupe. Parce qu'une fois qu'on a donné des règles, si quelqu'un dépasse les règles, ce sera perçu comme juste de aller gronder, mais je suis pas là pour gronder, en plus c'est des gens qui sont plus vieux que moi, mais d'aller dire s'il vous plaît. Je vous ai expliqué, enfin, évidemment je le fais pas comme ça, mais dans ma tête, je me dis, je me sens moins mal d'aller prendre Gérald, 50 ans, et lui dire, bah, s'il vous plaît, je vous ai demandé de ne pas chuchoter. Quand, en amont, j'ai commencé en disant, c'est important de ne pas chuchoter, c'est pour l'enregistrement, c'est mieux amené et c'est mieux compris, plutôt que de ne rien dire et de juste faire chut. En tout cas, je pense que c'est une meilleure manière de l'amener. Bon, je m'égare, mais en fait, j'essaye de donner pêle-mêle des tips. Sur le moment de la passation. Donc je disais faire un plan de table, je disais aussi que c'est coûteux et qu'il faut se faciliter la vie, donc notamment avec un plan de table. Moi, ce que j'ai fait, mais je m'en suis pas servi, c'est enregistrer avec plusieurs sources, donc plusieurs dictaphones potentiellement, et j'étais sur le sujet de potentiellement enregistrer le plus de personnes possible si tu as du budget, un micro-cravate par personne, et on concatène tout ça et on traduit ça par IA. Je pense que ça peut bien marcher, parce que moi j'avais fait deux prises de son différentes, j'en ai utilisé qu'une, mais à retranscrire c'était un bordel, et donc le meilleur moyen aussi c'est potentiellement de prévoir de filmer. Parce que c'est important pour déterminer qui est quelle personne, pas forcément pour dire que Gérald a dit ça et que Yannick a dit ça, mais plutôt pour au moins se dire là, il y a une personne A qui parle, là, il y a une personne B, une personne C. Évidemment, on garantit l'anonymat et la confidentialité des participants, mais bah, des fois, on n'est même pas sûr de qui reprend la personne, est-ce que c'est une personne qui la coupe, etc. Et globalement, l'étape d'après, c'est la retranscription qui est un enfer. Donc si tu as l'habitude de vendre ou de faire des entretiens, sache que pour un focus group, tu peux faire x2, x3 en temps de retranscription. Moi maintenant, en fait, ce que je fais donc, pour mes entretiens, c'est que j'estime qu'un entretien, c'est un jour de travail. Et donc, je facture un jour de travail au montant que j'ai décidé de mon taux journalier. Un jour de travail, c'est l'organisation en amont, le rendez-vous, le potentiel déplacement, la retranscription, l'analyse. Pour moi, une personne qui est entretenue pendant 1 heure, ça me prend 7 heures de travail. Et globalement, sache que les entretiens, c'est ce que j'ai fait le plus jusqu'ici, on tombe sur cet ordre d'idées, si ce n'est plus. Mais sache que pour un focus group, j'étais aussi parti pour aller 2 jours, parce que bah, déjà, un focus group, ça ne dure pas 1 heure, hein, c'est au moins deux, ça va très vite. Hein. Imagine une personne, tu peux lui faire parler 1 heure sur un sujet, imagine 12 qui discutent en même temps, globalement, tu peux leur faire parler toute la journée. Mais étant donné que c'est imbuvable et que ça ne fait pas partie des moyennes qui sont pratiquées, eh ben, tu peux prévoir 2 heures, 2 heures et demie sans problème pour un sujet qui est important pour les personnes, en tout cas. Et donc, eh ben, c'est un enfer à retranscrire parce que tout le monde parle les uns sur les autres, même si tu as mis les règles. Quand je dis les uns sur les autres, c'est juste je finis ma phrase et il y en a un autre qui commence après la fin de ma phrase et puis tu en as un qui rajoute juste quelque chose pour dire ah oui, je suis d'accord. C'est pas du brouhaha, hein, le groupe était géré, mais rien que ces petits coupages, ces petits ah oui, carrément, et certains moments où des personnes parlent en même temps parce que eh ben, justement tout le monde a envie de s'exprimer, c'est un enfer et parfois sur 10 secondes d'enregistrement, on va mettre 20 minutes. Parce que on repasse les premières 10 secondes pour la personne A, les autres 10 secondes pour la personne B, les autres 10 secondes pour la personne C, et vu que certains, enfin plusieurs parlent en même temps, il faut écouter lentement, il faut y revenir. Enfin, c'est vraiment compliqué à retranscrire. Donc moi, je dirais que pour bien retranscrire et donner quelque chose d'assez clair, il faut compter pour 2 heures d'enregistrement, je pense 2 ou 3 jours de retranscription avec aide d'une IA. Hein. Je me base sur une première passe d'IA qui retranscrit automatiquement. Et même avec ça, il faut 2 ou 3 jours de retranscription pour un entretien, un focus group de 2 heures. Donc, voilà, si j'avais su, j'aurais facturé plus parce que ça m'a pris plus de temps que prévu. En tout cas, voilà, fais attention à la retranscription, fais le plus de prises possibles différentes, si ce n'est un micro par personne, c'est les meilleurs tips que je peux te donner. Ensuite, je fais une partie de retranscription automatique via TurboScribe, qui est, à ce qui paraît, le meilleur sur le marché d'après les comparateurs et qui ne garde pas tes fichiers. Donc, au moins, niveau protection de données, ça correspond à mes attentes éthiques. Et donc, ça me fait une première version, sauf que en entretien, ça marche bien TurboScribe, mais des focus group, ça fait pas mal de coquilles. Et ensuite, je vais sur Oscribe, Otranscribe. Il me semble, .com ou point, oui, .com. Et là, en fait, c'est quelque chose qui facilite le fait d'avoir un texte et d'avoir un audio où on peut faire pause et play sur le même navigateur. Et ça facilite grandement le fait d'écouter l'audio, parfois en x2, en x3, en x5, et de suivre le texte déjà trémâché par l'IA et réécrire. Mais il faut savoir que ça met un temps fou. Et donc, si un jour tu dois vendre ce genre de prestation, augmente ton nombre de jours estimés pour la retranscription, mais pas pour l'analyse. Parce que l'étape d'après, donc une fois qu'on a fait tout ça, c'est l'analyse. Et là, moi, j'ai proposé de faire une analyse thématique et une analyse lexicale. Donc une analyse thématique, c'est faire un tri sur les idées. Donc le fond, et une analyse lexicale, c'est faire des analyses sur la forme, c'est-à-dire le nombre de mots, quels mots sont utilisés, est-ce que des mots sont utilisés un peu dans un même champ lexical, ils sont proches, et est-ce que ça renvoie à un type d'idée, et enfin voilà. Donc ça me permet d'avoir un retour sur quelles sont les idées et comment elles ont été transmises. Si tu es intéressé, les analyses lexicales que je fais, c'est via Iramutech ou Alcest, et globalement, ça n'a mené à rien du tout, ces analyses. Donc moi, je les avais offertes parce qu'on n'est jamais sûr, en fait, des analyses thématiques, on a forcément quelque chose parce que y a bien des idées qui ont été transmises dans ton focus group de 2 heures, sinon tu t'y es vraiment mal pris et ça ne dépend que de toi. Par contre, les analyses lexicales, on peut lancer le logiciel, changer le corpus, améliorer l'écrit et que ça ne marche pas, tout simplement. Et là, c'était le cas, ça ne marche pas, ça ne renvoie à rien. Pourquoi? Parce que les prises de parole sont beaucoup plus courtes en focus group qu'en entretien. C'est-à-dire qu'en entretien, tu vas laisser les gens parler, mais en focus group, c'est plutôt plein de personnes qui disent une phrase par-ci, une phrase par-là, parce que les gens se coupent un peu, il y a des échanges plus vifs, et c'est des analyses qui sont moins efficaces dans des petites prises de parole. Du coup, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, moi, j'ai montré que les analyses ne menaient à rien, étant donné que j'avais dit que c'était un peu exploratoire, ça a été très bien vécu. Parce que du coup, ce qui a beaucoup parlé, c'est les analyses thématiques. Et là, ce que j'ai fait, il y a aussi plusieurs logiciels qui le permettent de le faire, mais le fond reste faisable n'importe comment, hein, ça peut être fait à la main. C'est on lit ou on écoute. Donc, moi, je fais les deux, du coup, le focus group. Et on se dit quelle idée est transmise, potentiellement quelle idée peut rentrer dans quelle théorie. Imaginons que je veuille m'intéresser à la motivation des jardiniers et que je sais que la motivation, ça passe par la satisfaction de 3 besoins fondamentaux, la compétence, la filiation et l'autonomie. Je peux aller me dire, OK, je fais des focus groupes sur la motivation et je veux voir quand est-ce qu'on me parle de la satisfaction du besoin de compétence, ou d'affiliation ou d'autonomie. Et donc j'ai déjà ma grille qui est préétablie, c'est-à-dire que compétence, affiliation, autonomie, si on me parle d'autre chose, je le mets pas, ou je le mets dans autre, et je vais compter le nombre de fois où on me parle de l'un, de l'autre, etc. Donc compter, et le mieux c'est de référencer pour pouvoir y revenir et pouvoir dire, bon bah voilà, on m'a parlé 34 fois de la satisfaction du besoin de compétence. Regardez par exemple cet exemple-là, cet exemple-là. Donc moi, je ne me suis pas basé sur une théorie, je n'allais pas chercher quelque chose de théorique, même si j'ai certaines lectures qui sont théoriques. Par exemple, j'ai vu des dimensions de la confiance, j'ai vu certains aspects de la théorie de l'engagement. Donc là, c'est ma lecture de psychologue social où je me dis, ah bah là, en fait, quand ils disent ça, ils sont en train de faire référence à tel modèle de psychologie. En tout cas, moi, je peux faire référence à tel modèle de psychologie pour me dire, ok, bah, je comprends pourquoi ils voient les choses comme ça. Mais du coup, ce que je fais, c'est une première lecture et écoute de A à Z en essayant de dégager des thématiques, c'est-à-dire une phrase est dite, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue psychologique, à quoi ça renvoie sur le sujet. Donc si la réponse à une question, c'est deux points ouvrez les guillemets, donc je suis encore dans l'exemple du jardinage, deux points ouvrez les guillemets, moi je trouve que tondre c'est important, ok, je vais moi me dire, et eh bien là le sujet c'est importance de l'ordre des actions de jardinage. Ok, on va dire que c'est mathématique. Et à chaque fois qu'il y a une phrase, je vais me dire, ok, là, ça répond à telle thématique, ça répond à tel sujet. Donc, je le fais une fois, puis je revois toutes mes thématiques et je me dis, est-ce qu'il y en a qui se ressemblent? Et s'il y en a qui se ressemblent, généralement, c'est que vaut mieux essayer de soit bien les séparer, soit bien les regrouper. Donc, il y a sûrement deux idées qui sont bien différentes. Qu'on essaye de séparer, donc ça fait deux catégories, mais il y a sûrement un aspect qui est similaire et on va se dire, bon, bah d'accord, on fait une grosse catégorie, jusqu'à ce qu'on arrive à des catégories qui soient indépendantes et où, si je te dis une phrase, tu pourrais être assez assuré de pouvoir le mettre dans une catégorie. Et donc, tu as tes thématiques. Et une fois que tu as tes thématiques, et bah, tu les organises. Tu te dis, bon, bah, c'est marrant, quand on lit ça, en effet, les jardiniers, ils me parlent. Il y a un sujet autour de l'ordre de l'ordre des actions de jardinage. Et cet ordre, c'est très souvent d'abord on tond, ensuite on coupe, ensuite on arrose. Bon, bref, j'en sais rien. Et là, on va donner le contenu des thématiques, sachant qu'il y a des thématiques qui sont aussi prédéfinies par ton guide, hein, parce que justement, moi, ce que je voulais savoir du jardinage, c'était le sujet de l'ordre. Je ne vais pas dire que je suis étonné parce qu'on m'a fait référence à un ordre de jardinage. Par contre, dire que c'est toujours le même ordre et expliquer en quoi la tonte vient avant la coupe et la coupe vient avant l'arrosage, et ben là, on fait de l'analyse qualitative où on comprend mieux la manière dont les jardinages ont, dont les jardineurs ont à faire leur travail. Bon, j'espère que j'avoue que je suis encore en freestyle là sur cet exemple. J'aurais peut-être dû écrire. Je suis pas sûr que ça fonctionne jusqu'au bout, mais voilà, j'essaie de te donner des exemples qui sont en dehors de ce que j'ai réellement fait. Donc, une fois qu'on a plein de thématiques, qu'il y a du sujet qui sont revenus, qu'on sait à peu près l'avis des gens sur le sujet et sur les thématiques, eh ben, on est bon pour écrire un dossier et essayer de mettre en avant quelle est la position, l'avis, la manière de voir notre population d'études sur tel sujet, telle thématique et telle sous-thématique avec des exemples. Il y a quelque chose que j'ai fait, donc c'est un peu le faire à la main que de faire ça, mais moi ça m'a été très utile, c'est que j'ai pris mon document Word retranscrit et je l'ai copié-collé sur un Excel, de telle sorte à ce que chaque prise de parole soit une ligne dans un tableau Excel. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne parle, ça fait une ligne. Et du coup, ça me permet de pouvoir lire ligne par ligne, de bien segmenter dans ma tête en écoutant en même temps et de lire plus vite. Et comme ça, donc imaginons sur la colonne A, j'ai à chaque fois qu'une personne parle une ligne, et bah sur la colonne B, je vais pouvoir écrire mes thématiques. Évidemment, quand une personne parle, elle peut aborder plusieurs thématiques. Je vais pouvoir ajouter plusieurs thématiques et au fur et à mesure, eh ben, je vais me souvenir de mes thématiques. Et moi, je l'ai fait comme ça en tout cas. On peut le faire sur des logiciels qui permettent, globalement, ça reviendrait à surligner un bout de phrase et faire un commentaire en disant, bah, ça, c'est la thématique. Là, on est en train de me parler de l'ordre de tonte. Là, on est en train de me parler du type de fleur, etc. Mais moi, je l'ai fait comme ça et ça m'a été très utile ensuite pour réutiliser ce que j'ai analysé. Donc, j'ai eu deux groupes, donc deux grands focus groupes de 2 heures, qui ont fait exactement le même temps d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard, hein. Maintenant, je me rends compte que si tu connais bien ta grille, tu peux faire à peu près finir l'entretien quand tu veux, à la seconde près, je dirais à 5 secondes près, tu peux finir ton entretien. Moi, je me souviens qu'à la fin de mon deuxième entretien, on m'a applaudi parce que j'avais arrêté à la minute près. Et tout le monde disait, waouh, ouais, c'est incroyable. Mais en fait, j'avais décidé exactement de finir à ce temps-là. Entre la sélection des questions, savoir qui parle longtemps, qui parle pas longtemps, amener les gens tout doucement à la fin, couper quand il faut couper sans que ça fasse trop sec. Et bah, au fur et à mesure, on peut gérer à 5 secondes près son entretien. Donc moi, j'ai fait deux fois ces analyses pour essayer de revoir si j'avais d'autres idées. Puis j'ai organisé en thématique en me disant, ouais, bon, il y a ces sujets-là qui renvoient à, je ne sais pas, voilà, là, je vais revenir sur une thématique un peu plus psycho de la santé. Il y a un sujet qui revient sur la relation, il y a un sujet qui revient sur les gestes techniques, il y a un sujet qui revient sur la collaboration entre les salariés. Et donc, voilà, je vois que j'ai ces sous-sujets. Dans chaque sujet, je vais aller apporter du contenu en disant, bon, voilà, dans la relation, on m'a rapporté ça, on m'a rapporté ça, c'est assez partagé, tel sujet est clivant, voici un exemple de verbatim, donc de texte qui renvoie à cette thématique. Pour donner bah, du contenu tout simplement. Et donc j'ai fait un diapo avec chaque thématique et plusieurs exemples de verbatim par thématique en disant bah, il y a telle idée qui a été partagée, voici comment elle a été transmise, voici ce qu'on peut comprendre sur le sujet en général par rapport à cette population. Et il faut savoir que j'avais prévu de faire un dossier complet à bien plus détaillé sur chacune des thématiques et des sous-thématiques. Et on m'a dit non, c'est bon. Franchement, on a énormément de contenu comme ça nous suffit. Merci à toi. Et donc, bah, grâce à cette méthode et à toute cette manière de faire un focus group, ma prestation était finie, j'ai été payé, tout le monde est très satisfait et je vais même peut-être recollaborer avec ces partenaires-là. Donc voilà, c'était une belle expérience que je voulais te transmettre. Je pense que tu as quelques tips à utiliser si tu veux faire un focus group. Et si jamais tu m'écoutes et que les focus group t'intéressent et que tu souhaites quelqu'un pour le faire, et bah, n'hésite pas à m'appeler, à m'envoyer un message sur un des réseaux qui est en description de cet épisode. Voilà pour ce qui est de ce petit épisode enfin technique et opérationnel sur faire un focus group. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Sinon, enfin, dans tous les cas, je te souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.